gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Aujourd'hui, nous écoutons Magma Matters, un documentaire de Clarisse Calvo-Pinsol et Léa Roger. L'endométriose. À travers des rencontres, des personnes parlent de ce qui se tisse dans leurs intimités, entre amis ou dans des cabinets de thérapeutes, à l'écoute de chercheuses et spécialistes.
Je la vois comme une espèce de méduse. Si je pouvais mettre un mot vraiment dessus, c'est tentaculaire.
Des fois, je vais chez la gynécologue, elle pourrait me dire que elle voit, genre, je sais pas, un frigo ou je sais pas, je ferais ah ouais, tu m'as fait pas que. Je sais pas, je pense que ça va avec ce truc de des médecins qui oublient un truc dont on vient dans une opération.
Je me dis un rapport à la folie dans l'extrémité, quand même quelque chose de à se taper la tête contre les murs, quoi. J'ai l'impression que c'est une espèce de. Un truc qui est quand même en lutte, quoi.
Un bassin qui est vide et où il n'y a rien dedans. Ouais, comme si c'était inhabité ou déconnecté.
Ouais, comme des tissus de fascia en fait. Assez fantomatique.
Un truc avec des trous et. Non, mais c'est plutôt dur, moi. Une sorte de squelette d'oursin, quoi.
Je vois des éclairs, des pétillements très aigus. Et puis quand j'ai mal au côlon, enfin toi c'est des grosses douleurs. Là je vois des grosses basses, tu vois.
Salut Léa, c'est Clarisse. Je sais pas si tu te souviens, mais on s'est croisé à un concert il y a pas longtemps à Bruxelles. Et je te contacte parce que j'aimerais bien parler avec toi. J'avoue qu'en ce moment, je suis un peu perdue, un peu désespérée. On m'a diagnostiqué une endométriose profonde qui touche pas mal d'organes, de nerfs et d'autres endroits. Et je sais pas trop quoi faire. On propose l'opération, mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie de me faire opérer. J'aimerais bien tester des thérapies corporelles. Et on m'a dit que toi, t'avais pas mal de contacts à Bruxelles. Du coup, voilà, si on peut se voir cette semaine ou la semaine prochaine, moi, je suis dispo. Donc, quand tu veux, quoi.
Du coup, on fait un feu. Il y a plein de
vent.
Moi, j'aime bien commencer.
À 20 ans, je suis tombée enceinte. Et ça a été très traumatique, cette IVG. Et après, ça a été des douleurs beaucoup plus intenses. Mais je faisais comme si ça n'existait pas. Et je prenais de l'ibuprofène, mais il commençait à plus fonctionner. Donc je voulais des trucs plus forts. Et donc je cherchais sur Internet. Et puis je suis tombée sur le forum d'Optissimo. Ah ouais. Et à un moment, il y a une nana qui répond à une autre nana qui dit « Ah, mais peut-être que t'as l'endométriose. » Du coup, je copie-colle, je vais regarder la page Wikipédia et je me dis « Bon, c'est sûr, je l'ai. » Et du coup, je vais voir ma gynéco. Elle fait une écho. Elle me dit qu'il n'y a rien. Donc, je vais voir un autre gynéco. On me prescrit une IRM. Le mec qui me fait passer l'IRM me dit « Oui, vous avez une endométriose. Vous avez un kyste de 11 cm dans l'ovaire droit. » Et plein d'autres kystes, mais par contre, je comprends pas comment vous faites pour fonctionner avec ça. 11 cm, enfin, c'est une balle de tennis.
C'est à mon tour de parler.
Non, c'est qui veut.
Le fait d'avoir été diagnostiquée, c'est parce que ça faisait 2 ans que je faisais l'ostéopathie médecine chinoise suite au fait que j'ai une instabilité émotionnelle tous les mois, de l'ordre de 10 jours où je suis incapacitante, quoi, en fait. Et puis j'ai eu un kyste, et là, une pote m'a dit « Ouais, bah, je sais pas, ça commence à avoir quand même pas mal de potentiels symptômes de l'endométriose. » Et effectivement, j'étais diagnostiquée. Mais ça s'est très mal passé, mes entretiens avec les médecins. J'ai eu le classique pilule. Et du coup, moi, j'avais vraiment expressément dit, en fait, les hormones, c'est pas possible. Et ce qui a scellé la fin, en tout cas, de ces rendez-vous avec les médecins, c'est quand j'ai dit à la médecin, mais du coup, je dois prendre jusqu'à quand? Et elle me dit, ben, je sais pas, jusqu'à ce que vous fassiez un enfant. Mais là, j'ai vu le fossé. Du coup, j'ai arrêté les rendez-vous et je me suis pas rencardée plus sur l'expansion de l'endométriose en moi. Ce que je sais, c'est que je suis pas à un stade aussi vénère que d'autres et que moi, ça se situe vraiment beaucoup plus sur un plan émotionnel.
Pareil, émotionnellement, la moitié du mois, en fait, ça va pas. Surtout, donc, 10 jours avant mes règles ou une semaine avant, c'est syndrome prémenstruel où je suis très instable, très émotionnelle, très en colère. Et ouais, les 2 premiers jours des règles, en général, c'est l'enfer. Je suis dans une bulle parce que j'ai l'impression que personne ne peut comprendre. Où j'annule tout, donc je suis la reine pour poser des lapins parce que en fait je suis incapable de me tenir à ce que j'ai dit quand j'ai mes règles. Je pense qu'il faudrait se prendre ce temps pour soi, pour prendre un bain, lire, rien faire. Et en même temps, ça tombe des fois quand tu t'y attends pas, ou alors c'est plus fort que toi, t'as envie d'être entouré, t'as envie d'oublier en fait que t'as ça, quoi. Voilà, voilà.
Diagnostiqué de l'endométriose tardivement par rapport à, je pense, le moment où j'en ai eu. Depuis que j'ai mes règles, j'ai mal. Et vraiment, j'ai eu, on va dire, la post-adolescence, quand même des symptômes qui sont proches de ceux que j'ai maintenant et que je sais être clairement liés à l'endométriose. Ça a été des douleurs au dos pendant des dizaines d'années. Ma sœur, elle avait de l'endométriose, donc je me suis quand même assez vite dit que ça pouvait être ça. Et voilà, du coup, j'ai dû insister un peu auprès de ma médecin pour avoir une échographie. Donc, au final, je l'ai eue. Et du coup, je suis sortie de là avec le gars qui me dit « Vous avez probablement de l'endométriose, quoi. » C'est un peu intense comme façon d'être diagnostiquée parce que je n'ai pas du tout été accompagnée. Là, je suis de mieux en mieux pris en charge et de moins en moins mal, mais pour le moment, j'ai pas de traitement efficace. J'ai essayé la testostérone. Donc ça aussi, j'ai dû batailler parce que les médecins savaient pas du tout que c'était possible de entre guillemets, traiter l'endométriose avec la testo. Mais comme je suis une personne trans, symboliquement déjà, la pilule, c'était compliqué pour moi. Il se trouve que là, je vais essayer parce que la testo, ça n'a pas marché. Quand t'es une minorité dans la minorité, tu vois, là, il y a une question, l'endométriose, qui commence à être visible, et toi, à l'intérieur de ça, t'es en train de dire « oui, mais ». Donc toi, t'es en train de dire « oui, je suis un mec, j'ai de l'endométriose ». Alors même si je me définis pas forcément comme un mec, mais je simplifie, en général, je dis que je suis un mec trans pour que les gens comprennent, et ils te disent des trucs du genre que non seulement t'as pas le droit d'être qui tu es, mais en plus t'as pas le droit d'avoir de l'endométriose. Donc t'es vraiment réduit à genre moins que rien. Il y a beaucoup de... Enfin, moi je sais que je sens pas mal d'isolement.
Et comment vas-tu, Léa?
Vraiment bien. Il y a une époque dans ma vie où j'étais dans une espèce de cycle qui revenait souvent de dépression, on va dire. C'est très nouveau pour moi d'être dans cette espèce de quelque chose de stable.
Et au niveau du corps, comment ça se passe?
Et au niveau du corps, par contre, un mois, j'ai eu aucune constipation. Enfin, il y a eu un jour. Mais par contre, j'ai eu mes règles il y a quelques jours.
Ouais.
J'ai eu des poignards dans le ventre. En fait, j'ai eu des douleurs que j'avais plus depuis un moment. Donc, ça m'a un petit peu rendu triste, en fait, en me disant, zut, est-ce que ça repart? Pourquoi c'est là?
D'accord.
Bon, après, j'ai plus du tout de migraines.
Pour moi, c'est pas très surprenant. On peut avoir l'impression qu'on est en train de retomber, mais globalement, ça va quand même mieux. Okay. Donc, c'est comme une spirale, mais c'est une spirale montante. Voilà. On a l'impression de refaire le même tour et arriver presque aux mêmes symptômes, mais globalement, on est à un autre niveau. Il faut vraiment qu'au niveau à conscience, ça soit vraiment complètement positif et en confiance. Mais ça va s'installer, c'est pas encore acquis complètement, c'est en chemin. Ok, on va travailler?
Ouais.
Je m'appelle Ella Portiankin et je suis ostéopathe. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est bassin féminin pendant ma mémoire de la kinésithérapie en 1997. Et c'est la première fois que j'ai vu que là est vraiment un domaine où les femmes ne sont pas vraiment bien soignées.
Oui, parce que le côlon, il est vraiment un peu enflammé à droite. Et là, le sécum est sensible. Hein. Donc, et pas très loin, il a l'ovaire droite. Et donc, ça pourrait influencer.
Et en fait, je ne peux pas faire un tableau type d'endométriose. C'est vraiment chaque histoire, elle est différente. Mais ça, c'est sûr que je revois tout ce qui est le ventre. Puis, je travaille pas mal au niveau crânien. Il y a plein de correspondances entre le diaphragme pelvien et le diaphragme thoracique. Les tissus doivent bouger, donc en endométriose, souvent on sait que ça peut s'enflammer, ça peut congestionner. Donc il y a des endroits où on détecte réellement des adhérences internes, donc on va essayer de lui donner un mouvement. Et puis on va voir si ça s'améliore.
C'est Margot Neve, et du coup je suis doctorante à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et je fais une thèse en sociologie sur l'endométriose. J'ai fait des entretiens avec des personnes qui ont la maladie, j'ai fait des observations dans un hôpital dans une grosse ville en France. Ça fait environ 100 ans qu'on connaît la maladie. On sait que l'endométriose ne connaît pas de frontières. On sait que l'endométriose est retrouvée un peu chez en fait, toutes les populations.
Je suis le docteur Maxime Fastré, je suis gynécologue et je suis directeur de la clinique de l'endométriose à l'hôpital Erasme, qui est l'hôpital académique de l'Université libre de Bruxelles. C'est une pathologie qui, comme son nom l'indique, se définit par la présence d'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse de l'intérieur de l'utérus au mauvais endroit, principalement accompagnée de syndromes douloureux chroniques et problèmes de fertilité. c'est une pathologie qui se développe en relation avec les cycles menstruels, mais qui donne toute une série de symptômes qui ne sont pas forcément liés au cycle menstruel. Cette douleur chronique touche de nombreux systèmes et de nombreux organes. Ouvert la clinique de l'endométriose dans le service de gynécologie obstétrique le 1er avril 2021. Nous proposons une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire qui implique l'intervention de plusieurs disciplines médicales et paramédicales.
L'endométriose vient remettre en question vraiment un peu un fondement de la médecine, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lien entre le symptôme et le signe. C'est-à-dire qu'on peut avoir une toute petite endométriose, une minuscule lésion, et avoir des symptômes super importants. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de diagnostic, qui n'ont pas de bon traitement, aussi parce que les médecins ne sont pas formés. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes digestifs, il y a des personnes qui ont mal à d'autres moments que pendant les règles. Elle peut être retrouvée dans le cerveau, dans les poumons, alors qu'en fait, on va dire, voilà, c'est une maladie qui doit être rattachée aux règles, qui doit être rattachée à l'utérus, qui doit être rattachée en fait à une série de caractéristiques qui sont dites comme spécifiquement féminines. Que j'essaie de faire dans ma thèse, c'est de dire que l'endométriose, c'est une maladie genrée, ou en tout cas qu'elle est considérée comme telle, c'est-à-dire qu'elle va être définie, prise en charge de cette manière, alors qu'on pourrait lire ça autrement qu'à travers le prisme des règles, à travers le prisme des hormones. Comment est-ce que la médecine, elle définit le féminin, et qu'est-ce qu'elle propose aussi comme bon féminin? Et au contraire, qui est-ce qu'elle exclut de ses parcours de soins? Qui est-ce qu'elle ne prend pas en charge?
Je pense que les douleurs menstruelles sont trop souvent banalisées. Elles l'ont été dans le passé et elles le sont encore maintenant. C'est une des raisons pour laquelle on tarde souvent à faire le diagnostic d'endométriose. C'est parce qu'on a tendance à considérer que les douleurs menstruelles, c'est quelque chose de normal et de physiologique.
Ok. Mais ça fait un petit temps qu'on s'est pas vu du coup, parce que ça, c'est depuis le mois d'avril.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais. Et comment vous allez?
Ça va. Je fais du coup toujours plein de choses pour essayer de soigner l'endométriose. Donc j'ai fait aussi attention à mon alimentation, j'avais arrêté, ça je vous l'avais dit je pense, j'avais arrêté aussi l'alcool.
L'alcool, ça c'était déjà au mois d'avril.
Ouais.
Hein, ouais.
Mais là ça va, en fait avant j'avais des douleurs presque une semaine avant. Mm. Et là ça fait à peu près 3-4 cycles que j'ai mal juste quand elles arrivent le premier jour.
D'accord.
Donc je trouve que ça c'est une grosse amélioration. Ouais. Par contre j'ai toujours mal à la jambe.
Ouais. C'est ça. Et du coup... par rapport à l'IRM, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il y avait des nouvelles lésions d'endométriose?
Alors, ils m'ont dit qu'il y avait toujours au torus, toujours ligament utérosacré droit.
Ouais.
Il y a eu aussi un nouvel endroit que je ne savais pas, c'est la adénomyose, sur le muscle utérin.
Ouais. Mais du coup, l'IRM, c'était pour la cruralgie ou c'était pour voir où on
c'était
était?
C'était pour voir où ça en était. Ouais. Mais la cruralgie, il ne le voit pas, en fait.
Il ne le voit pas.
Il le voit
d'accord.
Pas. Et quand je suis allée voir le médecin après, il m'a dit là, je ne le vois pas. Donc, il faudrait ouvrir pour voir.
Ok. Donc, de quoi est-ce que vous auriez besoin ici, aujourd'hui, maintenant?
Peut-être... je sais pas, essayer de soulager par voie interne, encore comme je vais avoir mes règles qui vont arriver, peut-être que ça peut aider.
Ouais.
Et puis peut-être qu'on avait travaillé... de manière énergétique sur la jambe. Ça, j'ai retravaillé dessus en hypnose aussi.
D'accord. Ok, très bien. On va voir tout ça.
Les médecins spécialistes me disent, voilà, tous les ans, on a des personnes ménopausées, par exemple, qui ont de l'endométriose et qui arrivent dans notre service. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Si on reprend les termes médicaux, l'endométriose, elle est définie comme étant une maladie qui touche les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes qui ont leurs règles. Et donc, les personnes qui sont dites ne pas être en âge de procréer, en fait, vont être exclues d'une prise en charge médicale. Et donc, parmi eux, on va retrouver les enfants et les personnes ménopausées, et les personnes trans et, d'une certaine manière, les personnes lesbiennes. Et du coup, l'idée, c'est de remarquer, en fait, comment certains symptômes vont être présents avant, après les règles, mais vont pas être vus comme problématiques de nouveau, parce que je pense que... il y a cette focale autour des règles, autour du travail procréatif. Et en fait, c'est ça un nœud, en tout cas, pour comprendre l'endométriose et comprendre sa prise en charge.
Quand vous êtes enceinte, vous n'allez pas avoir vos règles pendant 9 mois. La majorité des femmes en Belgique allaitent leur enfant. Et donc, après l'accouchement, s'ensuit encore une longue période d'aménorrhée, c'est-à-dire d'absence de règles. Et donc, effectivement, cette période de grossesse et d'allaitement qui est non seulement un climat hormonal très favorable pour la pathologie qu'est l'endométriose, mais aussi cette longue période d'aménorrhée va être une période, effectivement, de répit pour les patientes qui ont de l'endométriose et d'absence de douleur, voire en tout cas de diminution drastique des symptômes. Alors, est-ce que pour autant c'est un bon traitement de la maladie et c'est quelque chose qu'on doit suggérer ? Bien évidemment non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suggérer à une patiente qui n'est pas dans un projet de conception de grossesse de concevoir une grossesse pour traiter une pathologie comme l'endométriose.
Je m'appelle Tommy De Gank, je suis historien de formation et j'ai fait une thèse à l'Université libre de Bruxelles sur l'histoire de la gynécologie à Bruxelles. Et voilà, j'ai été diagnostiquée d'endométriose, je devais avoir 29 ans. Il y a un constat clinique, on va dire, de les femmes qui enfantent plus souvent, il y a des signes où il y a des données qui semblent suggérer que les femmes après souffrent moins, que la maladie décline. Des chiffres qu'on peut interroger par ailleurs, mais même imaginons que ce soit le cas. Ce qui est en fait intéressant, c'est de constater que ça suffit à créer une hypothèse. C'est-à-dire que ces données-là sont jugées pertinentes parce qu'en fait, elles correspondent déjà à un script social et culturel qui préexiste. Et ce script, c'est de dire, mais en fait, les femmes sont malades quand elles sortent de la nature. Et l'idée qu'il y aurait un programme, en fait, dans le corps humain, chez les femmes, qui ferait qu'en fait elle devrait enfanter à tel âge et que si c'est pas fait, en fait le corps décline et qu'il n'est pas fait pour ne pas avoir d'enfant. Il y a eu des médecins qui ont considéré que ne pas être enceinte c'était un état pathologique. Ça explique aussi pourquoi, au milieu du XXe siècle, il y a eu à différentes occasions des médecins à l'Académie de médecine de France qui disaient qu'en fait finalement l'endométriose c'était une maladie de femme moderne, entre guillemets, donc d'une femme qui travaille et qui n'a pas d'enfant. Et donc, c'est une forme de pathologisation, finalement, de la déviation sociale et sexuelle des femmes. Quand on parle de gynécologie, moi, je trouve que l'existence même de cette discipline est problématique. C'est une discipline qui, par son existence, s'est fondée sur un système binaire. sur une vision binaire de la sexualité et du genre, et qu'il faudrait déjà sortir de ce cadre-là que pour arriver à voir les choses autrement. Pourquoi voir l'endométriose dans le cadre de la gynécologie? Il faudrait peut-être le voir dans d'autres choses transversales, des questions justement de maladies immunes, des questions d'inflammation. Prendre cette question par d'autres points de vue que le point de vue gynécologique.
Là, ce que j'appelle le petit toit du Pyrénées, donc à droite. Et ce petit toit, il est vraiment dur comme un os. Hein. Tu le sens?
Ouais.
Il va être plus moi. Et donc là, c'est un muscle à côté de moi, pour moi, de tout ce qui se passe à peau plus haut.
Ok.
Ça va? Donc là, je vais plonger. Donc là, on va passer. Voilà, tu dis bonjour. Bonjour.
Au colon?
Non. Le col de l'utérus.
Ah, c'est le col de l'utérus.
Ouais, bon. Bonjour, col de l'utérus. Mais là, il y a comme une petite adhérence. Là. Ça peut être l'endométriose, si tu as eu l'opération. On va voir si en relâchant cet endroit-là, parce que ça, pendant les rapports, tu peux sentir cet endroit-là, ça peut modifier la qualité des rapports.
Ça me
fait
mal, quoi.
Et c'est pas agréable. C'est bien là. On vit beaucoup de choses à travers notre tête et là, ça commence à se déformer. Donc, on doit revenir dans notre corps et à travers cette expérience corporelle, enfin, on lâche certaines tensions. Et si la douleur commence à diminuer pendant la séance, donc c'est la preuve. C'est pas à cause de maman. Ça veut dire que le corps, il est là, il cherche à lâcher prise. Et il veut se débarrasser de cette douleur-là. Donc, il faut y croire. Hein. C'est en train de lâcher. Comment tu te sens? Je suis toujours sur cet endroit-là.
Avant, quand on était là, je voyais plus un mur et là, c'est plus vallonné.
Ok, super. On va essayer de faire un petit exercice maintenant avec la respiration. Je suis toujours sur cet endroit-là, mais moi, je sens que la contraction commence à se ramollir, devenir moins précise. Petite tension. Donc, en inspiration, tu contractes, en expiration, tu relâches.
Sexualité.
Ouais. Si on a des douleurs pendant les rapports, quoi.
De manière un peu. Est-ce qu'on relie toujours ce truc de lien endo et sexualité, endo, douleur.
Oui, quelle place ça prend, quoi. Aussi. Ou si ça transforme les choses.
Moi, je veux bien commencer. Au début, ouais, c'est ça, j'avais vachement mal dans certaines positions. Et je savais pas trop ce que c'était, parce que je savais pas que j'avais l'endo. Et puis, avec mon copain, on a commencé à voir que je faisais de la dissociation. Que j'étais pas là.
Il
certaines positions dans lesquelles je peux avoir un orgasme me déclenchent vraiment des douleurs après qui durent plusieurs jours, même avec étirement, avec cacheton et tout. Donc du coup, ça a un impact sur la vie sexuelle quand même assez... C'est comme si il y avait une pression trop forte qui était exercée.
J'ai regardé qu'est-ce que ça voulait dire les dyspareunies, donc les douleurs pendant les rapports sexuels dans le monde médical. Et quelles sont de nouveau les implications politiques de cette définition ? Elles sont tournées du coup autour d'un rapport pénétratif hétérosexuel. Dans mes entretiens, j'ai retrouvé en fait une panoplie d'autres douleurs. Une simple excitation peut être douloureuse pour certaines personnes parce qu'en fait, se vient contracter cette zone-là. Vraiment, c'était assez fascinant de voir comment les douleurs qui sont pas liées en fait à une sexualité péno-vaginale vont avoir tendance à être psychologisées, donc pour invalider en fait un symptôme, parce que ça correspond pas à la définition des dyspareunies.
Pour ma part, des grosses douleurs, même avant de savoir que j'avais de l'endométriose. Je pense que j'avais des rapports sexuels très violents. Je l'ai conscientisé que récemment. Mais je pense que j'ai très mal commencé avec des partenaires pas du tout respectueux. Donc je pense que ça a pas aidé, quoi. J'avais beau le dire, j'ai l'impression que les partenaires avec qui j'étais n'étaient pas forcément très attentifs à ça. Parce qu'en fait, les positions qui, moi, me faisaient mal étaient un peu les positions que eux préféraient, quoi. J'avais tellement peur de faire chier avec l'endométriose qu'en fait, je préférais avoir mal et rien dire et à me taper des crises des fois la nuit, à me réveiller. J'avais trop peur de déranger pour ça parce qu'en fait, le peu de fois où j'avais abordé ça, bah en fait, tu sens que tu parles en langage alien, tu vois. Il y a un truc pas entendu, voilà. Bah ouais, j'avais mal, mais je préfère ça pour l'épanouissement de ma relation avec cette personne. Je me suis vraiment persuadée que je coucherais plus jamais avec un mec parce que j'avais tellement souffert que j'avais trop peur de ressouffrir.
Je continue. Je me sens toute tremblante et émotive là, de vous entendre. Du coup, bah, tout ce que vous dites, ça fait écho à plein de choses. Je reprends juste mon petit souffle, ça va. J'ai l'impression que de ces dernières années, j'essaierai vachement de faire des pratiques diverses et variées qui me permettent de réapproprier mon corps, mais je sens vachement ce truc de... que oui, toute seule, je me le réapproprie vachement, mais par contre, avec quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué. Mais est-ce que vous avez déjà essayé, enfin, d'abord essayer de parler de tes peurs avant d'avoir un rapport? Même si ça peut faire un peu peur, parce que tu peux te dire non, on va casser tout type de désir, mais non, mais pas du tout en fait. Enfin, ça permet vraiment de. Ouais, de mettre de côté des choses déjà. La question c'est aussi, est-ce que du coup la recherche du plaisir doit faire qu'on essaye de mettre de côté la douleur, faire en sorte qu'elle n'existe plus, quoi? Dans ces cas-là, enfin, je parle des douleurs qui sont liées à l'endométriose. Ouais. Est-ce qu'elle doit être prise en compte aussi? Enfin, ouais. Parce qu'a priori, deux corps qui en tout cas ont nos relations, enfin, il n'y a pas que du plaisir, il y a aussi, je sais pas, de la maladresse. On peut se faire mal, on peut blesser l'autre au sens.
Grâce à l'endométriose que j'ai fait mon chemin et que j'ai vraiment découvert plein de choses.
J'ai appris à vraiment aimer faire l'amour sans pénétration. Et puis ouais, en termes de masturbation, j'ai découvert les sex toys et c'est vrai que c'est un peu changé ma life quand même. Ah franchement, mais...
Cette maladie, elle ouvre un regard, enfin, elle permet cette ouverture parce qu'il est déjà là le regard, qui est là pour... Enfin moi, je pense... J'ai vraiment un truc de réparer une souffrance collective. Peut-être enlever directement. Je vais vous donner quelque chose pour vous couvrir. Donc, est-ce que vous avez l'impression de vous sentir un peu mieux dans votre propre corps pour le moment? Est-ce que c'est un chemin sur lequel vous avez l'impression d'avancer
ou... Oui, j'ai l'impression que je commence à être plus à l'écoute quand même, à plus connaître mon corps. Après, je travaille toujours... Sur le fait que j'ai cette sensation d'être coupée du bas de mon corps. Ça, j'ai beaucoup travaillé en hypnose aussi, c'est de savoir d'où ça venait.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer plus? Et ce serait où cette coupure?
Ici, à peu près.
Là, d'accord. Ouais. Je vais passer ma main en dessous de votre bassin. Ouais, merci, relâchez. Ouais. Vous allez juste prendre le temps de revenir dans votre corps, d'abord peut-être vous orienter dans l'espace, même ouvrir les yeux et juste voilà, sentir votre corps sur la table, laisser toutes les informations visuelles qui sont là rentrer dans votre cerveau, revenez juste à la sensation de votre bassin et d'essayer d'imaginer du coup les os pelviens. Ce grand bassin, ce grand bol pelvien. Et puis imaginez peut-être même les organes à l'intérieur. Le rectum devant le sacrum. Puis le cul-de-sac de Douglas là où il y a l'endométriose.
Voilà, 5e étage, laboratory of neuroépigénétique.
Isabelle Mansu, ouais, c'est elle.
Brain okay. Research Institute.
Je suis de formation biologiste moléculaire, donc j'ai commencé mes recherches en travaillant sur le cerveau, sur la mémoire. Et l'hérédité épigénétique, c'était aussi un concours de circonstances. On m'avait demandé de modéliser la maladie borderline, qui est souvent associée à des traumatismes. Et c'est à ce moment-là qu'on a développé un modèle animal, qu'on utilise toujours aujourd'hui, hein, 20 ans après. un traumatisme, en réalité, au départ, est perçu par le cerveau. Par exemple, une violence ou de la négligence. Et ça va activer une partie du système hormonal. Que ça soit transmis à la génération suivante, chez la souris, on a des résultats qui indiquent que les perturbations du métabolisme des sucres ou du métabolisme des lipides dues à un traumatisme dans la vie précoce, les premiers jours de la vie, ce sont des altérations, des symptômes qui sont visibles chez les animaux de la cinquième génération. Même si les circuits de stress qui vont être recrutés vont être en partie les mêmes, c'est ensuite vraiment les conséquences, c'est la durée de la stimulation du système endocrinien, des systèmes de stress, et puis la répétition, voilà. Certains enfants qui sont abusés très tôt, leur cerveau enfouit le traumatisme. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas ressortir un jour. Dans de nombreux cas, ça finit par ressurgir de façon inattendue.
J'ai commencé récemment un travail avec une kiné, mais en fait fait beaucoup de la fascia. Je la vois à peu près au moment de mes cycles, donc deux fois par mois. Physiquement, mais aussi dans ce que ça a fait remonter de mon histoire, c'est puissant comme pratique, quoi.
Tu vas inspirer, expirer.
C'est passé un truc un peu incroyable, en fait. Je pense un des premiers touchés qu'elle a fait. Elle a fait un toucher vraiment assez light. Elle met les mains pile à un endroit où genre, je douille vraiment. Et j'ai eu l'impression que c'était la première fois que quelqu'un sentait ma douleur comme ça, de façon aussi précise. En fait, je retenais mes larmes pendant quasiment toute la séance. Puis à un moment, elle me dit « Bon, est-ce que t'as envie de dire des trucs à ton utérus ?»
Tu vas inspirer, expirer.
Et là, j'ai commencé à pleurer comme un ouf. Et ça m'a fait énormément de bien. Mais en même temps, c'était compliqué de revenir à autre chose. Et voilà, donc on finit la séance. J'essaye de me lever. Là, en fait, je pars dans les vapes, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, depuis que je suis petit, je fais un cauchemar récurrent. Il y a quelqu'un qui vient me tripoter pendant la nuit. Et parfois, c'est pour me tuer avec un couteau. Parfois, c'est juste pour me toucher. J'ai vraiment une évidence de... Il m'est arrivé un truc, quoi. Alors que ça m'était jamais arrivé, alors que je fais ce cauchemar depuis que je suis petit, quoi. Au final, j'ai commencé à en parler à ma sœur. On a creusé des trucs, puis j'ai fini par en parler à ma mère, qui a, du coup, sorti un truc familial, effectivement.
Je pense qu'on manque encore de données scientifiques, mais en effet, il existe déjà de nombreuses études publiées sur les relations entre antécédents de traumatisme et en particulier de violence, qu'elles soient psychologiques, physiques et ou sexuelles, et le développement de maladies chroniques, dont l'endométriose.
Avec Clarisse, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça, du lien... traumatisme, maladie, quand tu commences à, du coup, à venir ouvrir la boîte de Pandore, quoi. Qu'est-ce que ta maladie dit ? Bah, j'ai l'impression que ça vient te montrer que ta maladie, c'est pas juste... En fait, c'est que c'est ton histoire. Donc, c'est pris dans tout ce qu'il y a dans ton corps et dans ta vie. Et ça vient aussi d'avant. Et donc, des choses qui m'appartenaient pas forcément... Et lié aussi à des choses que j'avais vécues, enfant, puis ado, enfin tous les traumatismes que moi j'ai pu vivre aussi. Et donc, c'était moins ma culpabilité que la problématique de la société, qui ne donne aucune clé à personne pour être capable d'être dans une résilience de ces traumatismes.
Pendant longtemps, j'ai senti une légitimité à pas guérir de mon endométriose parce que j'ai subi beaucoup de violences dans mon enfance et j'ai été témoin de violences. Du coup, j'avais l'impression que le fait de Bah déjà de souffrir, c'était normal parce que j'avais grandi là-dedans, mais que le fait de guérir de ça, et donc du coup de ne plus souffrir potentiellement, c'était comme lâcher une partie de mon passé et de mon histoire, quoi.
À partir du moment que au niveau tissulaire ça change, niveau de conscience de la personne change, pas nécessairement tout de suite sur la table, hein. Tout à coup une nouvelle prise de conscience ou bien le comportement change. Voilà, parce qu'elle a lâché à l'intérieur d'elle déjà quelque chose.
Voilà. Est-ce que c'est encore sensible du côté droit?
Bah non, ça va.
Ça va bien.
Ouais.
Ah, génial.
C'est quand même très rare si ça arrive et c'est pas du tout comme avant.
Ok. Et donc, et qu'est-ce qui se passe pendant les règles?
Bah, ça va beaucoup mieux au niveau de l'endométriose. Et bah, là, j'arrive à manger de tout.
Génial.
Ça, c'est quand même une avancée énorme.
Voilà, ça montre quand même que ta santé globalement est améliorée. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Je peux te dire que tu as vraiment bien évolué. Il n'a plus ce schéma de trauma. Tu l'as lâché et ça reste stable. Donc ça, c'est super. Voilà.
Je défends l'idée que le social et le biologique sont inséparables et que tout est culture, tout est nature constamment. On doit comprendre nos corps de cette manière-là, on doit comprendre nos maladies de cette manière-là, etc. Et donc je pense que oui, avoir une approche holistique pour comprendre pourquoi, comment se déclare notre maladie, c'est intéressant. Mais s'emparer de la question des violences sexuelles à travers le prisme de la gynécologie, moi je suis méfiante. C'est pas pour dire que le stress ne joue pas. En fait, je pense que le stress joue dans beaucoup de maladies. Mais de nouveau, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on mobilise ça avec l'endométriose. De nouveau, enfin, je sais pas, est-ce que pour le cancer, de la prostate, est-ce qu'on va psychologiser les hommes? Mais je crois pas.
Cette lignée, bah en l'occurrence dans ma famille, potentiellement de violences sexuelles, mais aussi, c'est pas une fatalité. Acter le truc et le comprendre, ça permet de déconstruire et aussi d'en faire une force, quoi. Comment, à partir d'un fait qui existe, tu le retournes et tu le transformes en outil politique ou en force personnelle ou... À mon échelle, il y a vraiment des trucs qui sont assez impressionnants. Donc comment le diagnostic et ce que j'en ai fait sont venus s'interpénétrer avec des trucs de travail sur mes fonctionnements, ma psyché, etc. Et en fait, bah oui, je douille, mais en même temps, y a aussi, ça m'a aussi apporté vraiment des choses, quoi.
Si on arrivait, par exemple, vraiment à démontrer que les expériences de vie peuvent modifier l'épigénome des cellules germinales et que les conséquences peuvent être vécues par les générations suivantes, ça modifie l'évolution. Les mécanismes évolutifs sont maintenant dépendants de l'environnement. Alors qu'avant, on disait non, l'environnement, tout est effacé, tout est remis à zéro. Donc ça change complètement. complètement la vue sur comment on évolue et ce qu'on hérite des parents et des grands-parents.
C'est Clarisse. Bonjour.
Ça va?
Ça va et toi?
Oui.
Ah, il fait bon ici.
Comment ça va ton endométriose?
Ben là, ça y est, je viens de les avoir, j'ai mal au ventre, mais j'avais pas du tout mieux le ventre avant, quoi.
Tu viens de les avoir juste là en arrivant?
Ouais.
Ah, ok, d'accord.
Ouais, juste là, quoi.
Et ça va? Tu veux une serviette, tout ça? Tu veux des trucs?
Bah, je pense que là, c'est le tout début, ça va aller. Ouais. C'est vraiment en mode pas beaucoup, mais c'est vrai que là, du coup, je sens les douleurs un peu, mais...
Ouais. Et j'ai des mélanges d'huile essentielle aussi pour... Okay. Que tu mets sur le ventre, si tu veux.
Ah ouais, peut-être.
Merci. Je pense qu'on pourrait aller voir dans ton cerveau là ce qui met cette douleur. C'est à quel endroit? Il y a une petite madame comme toi là qui appuie sur le truc en faisant douleur, douleur, douleur. Mmh. Ah, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et comment t'as douleur sur tes ovaires là? C'est tes ovaires? C'est un côté qui te fait mal ou les deux?
Les deux, mais là, ça a un peu diminué, j'ai l'impression.
Ouais.
Ça va et ça vient, en fait.
Ouais, comme des vagues. Mm. Parce que du coup, peut-être que ça peut... Tu peux imaginer qu'il y ait des vagues comme ça, qui font aller venir la douleur, mais tu sais aussi que les vagues, elles vont finir par descendre à marée basse, en fait. Du coup, ça pourrait aller venir et aller en diminuant progressivement. Imaginez comme des vagues qui passent chaque fois sur toute ta matrice comme ça. Et qui peut prendre chaque fois un petit peu de douleur avec elle, mmh, à chaque passage. Mmh. Et tu peux imaginer ces vagues qui descendent de plus en plus. En même temps que la douleur descend de plus en plus. Tranquillement. T'es comment?
Mmh, ça va, là je vois les valves.
Ouais.
Les vagues qui traversent mon corps.
Ok.
Après, je sens que j'ai un peu mal au niveau des reins aussi.
Ok.
Thank you.
C'était Magma Matters, avec les voix de Garance, Fen, River, Matt, Clarisse, Léa, Déborah, Margot Neve, Ella Portiankine, Maxime Fastré, Aurélie de Scoutette, Tommy de Gank, Marjolaine Rennebeau et Isabelle Mansuy.
Réalisation, prise de son, montage et musique, Clarisse Calvo-Pinsol et Léa Roger. Prise de son additionnelle, Armance Durix, mixage, Jeanne de Barcy.
Une production Éco-Souffleur avec le soutien de l'Atelier de création sonore et radiophonique et du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Merci à l'équipe de la CSR, du studio Euphonia, au collectif La Forêt de Soins, aux résidences Fonurgia Nova et à toutes les personnes qui nous ont soutenus et accompagnés de près ou de loin dans ce projet.
Gymnastique sonore, c'est terminé pour cette semaine. Pour plus d'informations sur l'émission et pour retrouver les archives, rendez-vous sur canalb.fr. À bientôt!
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.